Ariane Bois nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Ariane.
Bonsoir.
Ariane, vous êtes écrivain, journaliste, vous avez animé une chronique littéraire sur Radio Shalom, entre autres. Vous
avec joie.
Vous écrivez dans de nombreux journaux prestigieux et on va parler de la parution de votre dernier livre qui s'appelle Le Monde d'Anna, j'ai envie de dire sur Radio Shalom, Le Monde de Hannah. Je dis la parution de votre dernier livre parce qu'en fait c'est une reparution, c'est un livre qui a très très bien marché et qu'on republie aujourd'hui. Aux éditions Poche, Charleston Poche. Et alors, c'est l'histoire d'une personne. On a envie de dire que c'est l'histoire d'une petite fille, mais ce n'est pas ça.
Parce pas, que, tout, en fait, pas seulement, en tout cas. Hein,
mais je ne sais pas pourquoi. Reste l'impression que c'est l'histoire d'une.
De deux petites filles.
De deux petites filles, oui. Hannah et Susan, avec quelque chose de particulier qu'on n'aborde pas forcément dans tous les livres qui parlent de cette période, puisque ça démarre en 1939. C'est les Juifs turcs.
Exactement. Ce sont mes racines. Ma maman avait un papa qui venait d'Istanbul, juif turc, et une maman qui venait de Roumanie. Et donc, on m'avait très peu parlé de cet exil, de ce qui s'était passé pendant la guerre. Donc, j'ai décidé d'y retourner et d'interviewer des judéo-espagnols qui m'ont raconté l'avant-guerre, ce qui s'est passé pendant la guerre pour eux, qui est un destin très particulier de la Shoah, et puis après.
C'est très particulier parce que c'est effectivement des Juifs qui sont séfarades et rescapés de la Shoah.
Exactement. Ce sont des Juifs qui ont eu un destin étrange puisque, je le rappelle, la Turquie était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était aux côtés des Allemands pendant la Première Guerre mondiale et elle a décidé de lutter contre toutes les formes de discrimination de ses citoyens, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens. Et donc, les Juifs turcs ont eu quelque chose de spécial. Ils n'ont pas eu à porter l'étoile jaune. Ils ont été protégés, en tout cas jusqu'en 1944. Et à partir de 1944, l'ogre nazi réclame la chair de tous les ressortissants juifs. Et donc, va se mettre en place une incroyable histoire de sauvetage.
Alors, c'est très intéressant, cette histoire de Turquie. Bon, d'abord déjà, à un moment quand même, le consulat, il renvoie les Juifs, dont vous parlez dans le...
Bien sûr.
Il renvoie Chaïm. Mais après, effectivement, il y a toute une histoire de sauvetage qu'on va parler dans un instant. Mais c'est intéressant parce que moi, ma grand-mère était juive turque. Et donc, elle avait la possibilité de se cacher de deux manières. La première, c'était de dire qu'elle était espagnole, parce qu'en plus, elle avait le visage espagnol et elle parlait comme vos personnages.
Tout à fait.
Hein, dans le monde de
Judio.
Le Judio. Et elle avait la possibilité de dire qu'elle est turque, puisqu'elle était vraiment turque. Eh bien, elle avait choisi espagnol.
Peut-être oui, c'est intéressant.
C'est intéressant. Hein. Mm-hmm. Quand elle passait à des checkpoints, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, au contrôle, elle parlait espagnol et elle disait « je suis espagnol ». Et ça lui a sauvé la vie deux ou trois fois.
Voilà, et beaucoup de Juifs espagnols, on le sait, ont évidemment eu la vie sauve. Alors moi, ma grand-mère était roumaine, donc a dû porter l'étoile jaune, mais mon grand-père avait continué à payer à l'ambassade de Turquie à Paris un forfait annuel pour garder la nationalité et ça lui a sauvé la vie puisqu'il allait à l'ambassade très souvent et il a entendu parler de mystérieux trains du retour.
On peut dire ce que c'est sans déflorer le roman.
Bien sûr, allons-y.
Ben, en fait, oui, c'est un sauvetage qui est organisé où des Juifs qui étaient à Paris, dans le quartier juif turc de l'époque, c'est autour de la rue de la Roquette, c'est derrière la Bastille, etc.
Oui, la rue Keller, la rue Bafroy, la rue Sedaine,
la
c'est
rue
un quartier très riche.
Et la synagogue de la Roquette,
et la
qui a été créée par des Turcs, en fait.
Voilà, et la synagogue de la rue Popincourt, elle s'y était.
Et ils partent en Turquie, accueillis sur place... C'est moi je connaissais pas cette histoire, c'est
personne
un peu
ne la connaît.
Mais non.
Personne ne la connaît parce que c'est vous savez chez les judéo-espagnols la transmission est très orale, il n'y a pas eu de livre sur la question, il y a eu 8 trains à partir de janvier 1944 et mon grand-père qui parlait 7 langues a organisé le départ de ces trains donc avec des juifs turcs qui rentraient à Istanbul mais ma mère était née à Paris donc elle n'avait jamais vu évidemment la Turquie et il faut imaginer ce voyage incroyable parce que toute l'Europe est occupée à l'hiver 44. Donc, on traverse la Bulgarie, la Yougoslavie pour arriver finalement en Turquie. C'est un voyage qui dure 6-7 jours. Et à chaque fois, à chaque frontière, il faut montrer les papiers. Il faut expliquer que c'est des ressortissants turcs. On ne parle évidemment pas de juifs aux Allemands. Et à chaque fois, on a peur. À certains moments, il faut abandonner le train, marcher à pied, reprendre un autre train. Et puis finalement, tout se passe bien. Les gens partagent leur nourriture, leurs boissons. Et ils arrivent à Istanbul. Et il faut imaginer ce que c'est pour des enfants qui n'ont jamais connu que les privations. Ma mère était née juste avant la guerre, et donc là, il y a le soleil, il y a la mer, il y a les oranges.
Vos personnages à vous, je ne sais pas si Cécile, c'est très exactement votre maman. Non, puisqu'elle est turque, donc j'imagine que non. Mais bon,
Anna aurait pu être ma maman, Cécile aurait été tout à fait ma grand-mère.
Ma grand-mère. Elles veulent pas. Non, mais c'est Cécile qui veut pas revenir en France. Et puis en plus, il y a quelque chose, c'est que finalement, ils y sont plus heureux. Ce qui m'amène aussi à poser la question du bonheur de cette petite fille. On a l'impression que finalement, c'est un peu osé ce que je veux dire, mais elle vit assez heureuse avant d'être. J'ai cette impression-là.
Bien sûr.
Ah d'accord.
Bien sûr.
Parce qu'on dit tout le temps, tu vas pas dire que les enfants juifs étaient heureux pendant la guerre. Tu vois, on va m'attendre avec un flingue en bas de la radio. Mais et en vous lisant, et même encore une fois, en entendant les témoignages de mon père, il racontait pas, lui, il était caché à Saint-Laurent de Chamousset, il a pas raconté une enfance où il se sentait...
Les enfants ont ce bonheur-là de vivre le moment, de vivre l'instant, et quand ils étaient cachés chez les gens qui les traitaient bien, ils n'étaient pas tous forcément malheureux. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Chambon-sur-Lignon, et donc j'ai vu beaucoup d'enfants cachés. Ma mère a été une enfant cachée. En ce qui concerne le 11e, eh bien, c'est un petit microcosme, c'est un village, les enfants jouent dehors, il y a les odeurs, il y a la musique, il y a les chansons. Donc Anna et Susan, eh bien, elles vivent, elles ont 8 ans et elles vivent ce que vivent les enfants, c'est-à-dire que elles sont dans l'immédiat, elles jouent aux petits chevaux, elles jouent aux osselets, elles se préparent pour le spectacle de danse à la fin de l'année. Et puis Anna, progressivement, va se découvrir juive finalement dans le regard des autres, puisqu'elle se sent comme les autres. Elle est née en France, même si ses parents sont étrangers. Et puis, il y a l'exode, il y a le statut des juifs en octobre 40, il y a le début des exactions, et la situation va se tendre. Et donc, mon héroïne va être obligée de se cacher avant de pouvoir partir à Istanbul.
Alors, par contre, il y a des constantes, hein, parce que la postiche, vendre du linge de corps, c'est turc, hein, ça.
Exactement.
Venir en France avec une machine à coursier Saint-Ger. Non, mais ça,
c'est ce qu'on a connu. C'est ce que ma grand-mère ne quittait pas, ne faisait pas un geste sans sa machine à coudre. Les boutiques, les boutiquasses, et on essaye de survivre. Ils sont arrivés de l'Empire ottoman sans rien, et donc il a fallu vraiment partir de zéro et monter des commerces. Et donc, la rue Popincourt et ce quartier du petit Istanbul, c'est un petit peuple, mais très attachant, avec son épicerie, avec ses cafés, avec ses salons de thé, et puis avec des gens qui vivent, qui cohabitent. Hein. Il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Juifs du Levant, il y a des Juifs grecs, il y a des Juifs turcs. Tout ce monde-là cohabite, et puis la guerre arrive, et à ce moment-là, les gens se découvrent étrangers, se découvrent juifs, et vont devoir vivre avec les menaces de plus en plus précises. Vous savez, le 11e arrondissement est l'arrondissement qui, à Paris, a le plus été touché par les déportations, puisqu'il y a eu 7000 juifs déportés. C'est record absolu.
C'est l'arrondissement, vous citez juste le nom, mais c'est l'arrondissement du gymnase Japy.
Bien sûr, exactement. Vous avez tout à fait raison.
On y a interné des milliers de personnes.
Voilà, la rafle du billet vert, qui est donc arrivée en 1941, les 7000 déportés en tout, dont 1169 enfants, et la rue Keller, où il y a une école qui est assez connu, eh bien c'est l'école de France où il y a eu le plus de déportés.
Ah bon ? C'est pas la rue comment elle s'appelle la rue qui est juste à l'entrée de la rue des Rosiers, ça s'appelle, je crois, des Sœurs Saint-Gervais, quelque chose comme ça. Dessus, il y a une plaque qui parle quand même de centaines d'enfants juifs.
Oui, oui, mais la rue Keller a payé encore un plus grand tribut.
Le 11e, c'est aussi la rue Amelot, pareil.
Exactement, la rue Amelot, évidemment, avec le comité de la rue Amelot, qui est un comité de résistance qui a aidé énormément les enfants. Donc moi, c'est ça ce que je voulais montrer, c'était ce monde d'avant, la manière dont les judéo-espagnols sont arrivés en France, ont créé un monde à eux, et puis la guerre est arrivée, et après la guerre, comment le quartier du 11e arrondissement et les judéo-espagnols ont pris en main leur destin, malgré, évidemment, des tragédies extrêmement, extrêmement importante. Le monde d'Anna, c'est un monde qui se rétrécit au fur et à mesure que la guerre et les exactions se poursuivent. Et puis un monde qui va s'ouvrir et se développer, puisque Anna va devenir grand reporter.
Et après, donc, c'est l'après-guerre, donc les Viet Cong et la création de l'État d'Israël.
Exactement. Et donc, c'est une période où c'est une génération qui veut s'affranchir de tous les diktats. C'est Simone Veil, c'est Krivine, c'est...
Gisèle Halimi.
C'est Gisèle Halimi, bien sûr. C'est Labro, c'est Lazareff, c'est Badinter. Et donc, c'est une génération qui reconstruit notre société.
Pour parler de Turc, c'est Françoise Giroud.
Exactement. Françoise Giroud. Françoise Giroud, ils prennent tous les risques. Fondatrices
et c'est vraiment
et c'est vraiment l'essor du journalisme.
Et quand, mais par contre, juste parce que c'est tellement délicieux, moi je l'ai vécu. Les parents parlent en judéo parce qu'ils croient que les enfants comprennent.
Exactement.
Pas.
Exactement. On a tous vécu ça. Hein.
Déchalot. Miral Chico. Ah oui, merci. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde, papa? Dis-moi. Tu m'as parlé en espagnol, j'ai rien entendu. Pour revenir vraiment sur le plan historique de stricto sensu, c'est la deuxième fois que les Turcs font ça aux Juifs. Parce que l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Mais d'ailleurs, pourquoi l'espagnol? Pourquoi ces gens parlent l'espagnol, ces juifs turcs?
Parce qu'ils viennent d'Espagne.
Parce qu'on ils viennent d'Espagne, mais parce qu'on les a déjà accueillis en Turquie une première fois en 1492,
oui,
pendant l'Inquisition.
Les sultans les accueillaient les bras ouverts parce que c'était de l'argent frais, parce que c'était des commerçants, parce que ça pouvait être des banquiers. Et donc, l'Empire ottoman dit oui, les juifs vont avoir une place chez nous. Sauf qu'en 1920, quand l'Empire ottoman se désagrège en l'espace de quelques mois, eh bien, les juifs se sentent pas du tout accueillis et ont peur de la République de Kemal et pensent qu'ils seront mieux en France, à Paris, parce qu'ils sont très francophiles. Ils ont travaillé à l'Alliance israélite universelle, ils ont étudié, donc le français, ils connaissent. On parlait français dans les familles, donc ils arrivent à Paris parce que pour eux, la France, c'est Victor Hugo. Et donc, ils vont complètement déchanter puisque, évidemment, Vichy va non seulement pas les protéger, mais évidemment les livrer aux Allemands. C'est un pan de l'histoire juive que l'on connaît très mal, parce que les judéo-espagnols sont discrets.
Les Juifs du Bosphore.
Les Juifs du Levant, comme on disait,
ou du Bosphore.
Sont extrêmement discrets, n'ont pas raconté leur histoire. Donc moi, j'en racontais ma bouleversée, puisque ma mère ne me l'a pas raconté.
8000 personnes, vous avez dit?
Non, 18 enfants que j'ai pu interviewer.
Combien ont été sauvés? Vous m'avez donné les chiffres tout à l'heure.
465 Juifs et leurs familles, donc ça fait à peu près 1000 personnes.
Ah, j'ai mal entendu.
Non, 1000 personnes,
malheureusement. Mais ça fait quand même énormément de monde pour une histoire tout à fait douce. Il y a une douceur. D'abord la douceur de l'enfance, la douceur de la Turquie.
La douceur de la nourriture, la lumière, les chants judéo-espagnols, et puis cet optimisme chevillé au corps. Quand la guerre se termine, aucun juif qui était à Istanbul décide d'y rester. Ils rentrent tous, ce qui est absolument hallucinant. La France, ça aurait pu être celle de Pétain et celle de Vichy. Ils étaient chez eux, après tout, à Istanbul. Ils disent non, nous, on rentre à Paris parce qu'on veut que nos enfants aient un meilleur avenir que nous. On veut qu'ils construisent quelque chose en France. Et je trouve ça extraordinairement beau, ce retour, comme si, finalement, Vichy et Pétain n'avaient été qu'un épisode, qu'une parenthèse dans l'histoire de France.
Et ils le vivaient comme ça.
Et ils reviennent majoritairement.
Ils le vivaient comme ça.
Oui, ils reviennent tous à Paris.
Ma grand-mère disait « Moi, j'aime De Gaulle », ce qui voulait absolument dire pour voir la tête de ma grand-mère. « Moi, j'aime De Gaulle ».
Mes grand-mères aussi aimaient De Gaulle.
Ah, moi, j'aime De Gaulle. Non, mais comme ça, en mangeant du carpousse, mangeant de la pastèque, elle disait « Moi, j'aime De Gaulle ». Et j'ai même entendu mon père, alors c'est autre chose, Yitzhak Abouaf, un Yitzhak qui chantait, je vous promets que c'est vrai, Maréchal nous voilà en se rasant, parce que ça le faisait marrer, et parce qu'il avait appris Maréchal nous voilà à l'école.
À l'école, oui.
Ouais. Et ça le faisait rire, il chantait. C'était un chant qu'il avait appris quand il était petit, sous occupation à Lyon. J'ai d'ailleurs appris un mot que je ne connaissais pas, israélite de souche.
Voilà, là, c'est comme ça qu'on disait en 1938 dans les journaux, on disait même ça dans le Figaro.
Avant, oui. Israélite de souche, là, c'est votre petit clin-gueul à Zemmour, je me permets de dire non, il n'y a pas de clin-gueul, d'accord. Peut-être juste une question sur la nostalgie, c'est un livre nostalgique ou pas?
Oui, je crois qu'on a tous la nostalgie de ce que nous ont raconté ou pas raconté nos grands-parents. Moi, les miens ne parlaient peu, ils n'avaient pas honte d'avoir survécu, mais ils n'étaient pas particulièrement fiers non plus de cet épisode. Donc j'entendais parler d'un train, mais ça restait dans le folklore familial. J'ai voulu en savoir plus. Oui, c'est un monde disparu, le monde d'Anna. Le 11e est passé par différentes phases d'émigration. Les Asiatiques sont venus, d'autres peuples viendront. Les judéo-espagnols ont essaimé partout et ne sont plus dans le 11e. Oui, c'est une nostalgie d'une époque révolue, d'une tendresse, comme vous l'avez mentionné, et puis de personnages qui ont dû faire des choix incroyables pendant la guerre. Est-ce qu'il fallait rester? Est-ce qu'il fallait partir? Vous vous rendez compte ce que ça voulait dire? Une semaine de train en pensant être arrêté chaque jour par les Allemands. Les familles ont dû faire des choix cornéliens.
Et surtout que des fois, on envoie une partie de la famille, on laisse l'autre.
Voilà, exactement. Donc, oui, en tout cas... Je ne sais pas si c'est de la nostalgie, mais en tout cas, c'est vraiment un coup de chapeau. Les judéo-espagnols, je les aime, je les porte dans mon cœur.
Querido, ça veut dire quoi?
Exactement.
Hijo mio, querido. Ben écoutez, moi, je m'étais dit, alors, il y a aussi un secret dans cet ouvrage dont je ne vais pas parler, mais c'est vrai qu'il est terrifiant, il est glaçant, on ne le voit pas venir. À moins que vous vouliez en dire un mot. Moi,
je crois qu'il ne faut pas trop dévoiler, mais hein, elles sont toutes les deux dans un même immeuble et les familles se rencontrent, se fréquentent, se connaissent. Et puis l'une vient de la Creuse, l'autre vient d'Istanbul. Et puis un secret va séparer les petites filles qui vont grandir et qui vont toutes chercher la vérité. Donc voilà, c'est un roman d'apprentissage.
Une question par contre vraiment sur la fin du livre. Elle s'appelle Hana, la petite ?
Elle s'appelle Hana.
Hein, la petite ?
Oui, ah ouais, bien sûr. Okay.
Ariane Bois, je rappelle le titre de ce très joli roman, Le monde d'Hana, qui est paru en poche. Donc c'est une réédition après épuisement, après qu'il ait beaucoup été lu et vendu aux éditions Charleston. Oui, apparemment.
Exactement.
Aux éditions Charleston. Merci d'être venu faire ce détour par chez nous, ici.
Merci
sur Radio
Bernard,
Chalon,
c'est toujours un plaisir.
Qui est votre maison, vous qui avez fait un bout de chemin avec nous et avec la rédaction. Le monde d'Hana, d'Ariane Bois, aux éditions Charleston Poche. Merci à vous et bonsoir.
Merci, bonsoir.